Voici deux textes liturgiques pour cette fête de Saint-Joseph. L'épître est tirée de saint Paul aux Colossiens. Mes frères, remettez la charité qui est le lien de la perfection et que la paix du Christ règne en vos cœurs. Cette paix à laquelle vous avez été appelés pour ne former qu'un seul corps, montrez-vous reconnaissant. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, travailler de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous savez qu'en récompense, vous recevrez l'héritage des mains du Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, arrivé dans sa patrie, Jésus instruisait les gens de leur synagogue, si bien que, saisi d'étonnement, il disait « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas là le fils du charpentier, est-ce que sa mère ne s'appelle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Alors d'où lui vient tout cela? Ils étaient concertés à son sujet, mais Jésus leur dit, un prophète n'est mésestimé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Veuillez vous asseoir. Au niveau des retraites, je suis plein maintenant pour chaque retraite, sauf les retraites de septembre et d'octobre, lesquelles j'ai encore quelques places. Donc ceux qui m'écoutent sur Internet, qui souhaitent s'inscrire, qui n'attendent pas le dernier moment. Septembre, c'est du 12 septembre au 17 septembre, et la retraite d'octobre du 3 au 8 octobre. Ceux qui viennent à la messe en semaine, attention, demain lundi, messe à 8h, mardi, mercredi, messe à 10h, jeudi, messe à 8h. Et vendredi et samedi, je ne serai pas là, je vais pour ma mission mensuelle à Andorre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui une des plus grandes fêtes de l'année liturgique. Et je voudrais d'abord publiquement rendre hommage au pape Pie XII, qui est bien triste, mais aujourd'hui pas toutes, mais presque toutes les chapelles traditionnalistes, célévacantistes, ils refusent cette messe. Les prêtres refusent de dire cette messe et disent encore la messe de Saint-Philippe et Saint-Jacques, alors que le pape Pie XII, en 1955, a donné l'ordre express à ce que la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques, qui était avant le 1er mai, soit transférée au 11 mai. Et il a remplacé cette messe, cette fête, par la fête de Saint-Joseph artisan. Alors c'est difficile de savoir pourquoi ces prêtres se permettent de refuser l'autorité de Pie XII. Je me répète, je m'excuse de me répéter, mais ça me semble extrêmement important de rentrer ça dans la tête des gens. C'est qu'à partir du moment où on reconnaît un pape comme légitime, c'est le cas du pape Pie XII, on est tenu en conscience de suivre les modifications liturgiques que le pape fait intervenir pour la liturgie dans l'Église universelle. Ce qui est le cas pour le pape Pie XII avec cette fête de Saint-Joseph. Puis aussi, je pense, ça vient aussi un peu de cette espèce de mépris pour les petits. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Une fois, j'ai discuté avec un prêtre qui refusait la messe de Saint-Joseph et qui m'a dit oh, « c'est la messe de Saint-Joseph, premier communiste ». C'est totalement stupide. L'Église a toujours fait la même chose. De reprendre des anciennes, très souvent c'est le cas, reprendre des anciennes fêtes laïques, Et les baptiser littéralement, ce qu'elle a fait avec la fête de la Lumière, par exemple, qui est devenue la fête de la Chanteleur. C'est le cas aujourd'hui avec cette fête, qui est une fête laïque malheureusement, mais qui est aussi maintenant une fête religieuse très importante. Alors, pour rendre honneur justement à Saint-Joseph, je voudrais un peu vous, rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, vous expliquer le rôle de Saint-Joseph. Il y a peu de saints qui ont des titres pareils. Il est dépassé par la Sainte Vierge, évidemment. D'après la Sainte Vierge, le rôle de Saint-Joseph, les titres que l'Église catholique donne à Saint-Joseph, c'est ahurissant. Pour commencer, il est patron de l'Église universelle, rien que ça. C'est difficile à comprendre. On pourrait se dire, mais pourquoi l'Église n'a-t-elle pas nommé peut-être Saint-Pierre comme patron de l'Église universelle? Ou la Sainte Vierge Marie comme patron de l'Église universelle? Non, Saint-Joseph. Alors posons-nous cette première question, pourquoi est-ce que Saint-Joseph est nommé patron de l'Église universelle? Mais parce que Saint-Joseph est patron de la Sainte Famille. Il est chef de la Sainte Famille. Et la Sainte Famille est en quelque sorte un embryon de l'Église universelle, un microcosme de l'Église universelle. C'est un mystère insondable. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, qui obéissent à Saint Joseph, qui est le moins saint des trois. Et quand on pense à ces choses-là, ça laisse vraiment songeur. D'où l'importance du principe d'autorité. La Sainte Vierge Marie aurait pu dire à Saint Joseph, c'est moi la mère de Dieu, alors moi qui commande ici. Non, elle n'a pas dit ça. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu dire, je suis le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, donc c'est moi qui commande ici. Non. Saint Joseph, bien qu'il fût le moins saint des trois, était celui qui dirigeait la Sainte Famille. Et donc Dieu sait si aujourd'hui il faut le prier justement pour cette belle fête de Saint Joseph, pour lui demander la protection de l'Église. N'oublions pas que l'Église a les promesses de la vie éternelle. Alors là, encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. On entend beaucoup trop de gens nous dire, par exemple, « Monsieur l'abbé, effectivement, il faut prier pour l'Église qui a perdu son unité ou sa sainteté. » N'oublions pas une chose très importante, c'est que l'Église est le corps mystique du Christ et que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique et le sera jusqu'à la fin des temps. Donc l'Église ne peut pas perdre son unité, ne peut pas perdre sa sainteté, ne peut pas perdre sa catholicité, son apostolicité. Et on est de dire que l'Église a perdu son unité, c'est un blasphème. C'est un blasphème parce que ça laisse supposer que l'Église n'est plus divine. Si l'Église perd sa sainteté, c'est qu'elle n'est plus divine. Ce qui est vrai, malheureusement, c'est que, hélas, beaucoup de gens peuvent quitter l'Église, ça c'est autre chose. De même que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, au début de son apostolat, a commencé à parler, par exemple, à ses disciples de la Sainte Eucharistie, qui allait changer le pain au corps de notre Seigneur et le vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup l'ont quitté à ce moment-là. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, ça c'est bien très important, surtout dans la situation actuelle, de bien se mettre là dans la tête, ça dans la tête, bon Dieu n'a jamais promis qu'il y aurait des milliards et des milliards de catholiques, attention. En fait, il a dit l'inverse. Puisqu'il a dit à la fin des temps, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi sur la terre. Il a parlé d'un petit troupeau. Et donc, il faut prier le bon Dieu avec humilité pour demander au bon Dieu la grâce de conserver la foi. Et c'est une grâce à demander. N'oublions pas que beaucoup des grâces que le bon Dieu nous accorde sont des grâces conditionnelles. C'est-à-dire que notre Seigneur a bien dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous donnera. Donc il faut savoir demander. Et il faut demander la grâce de conserver la foi. Et là encore, on entend beaucoup de bêtises de la part de certains fidèles qui nous disent par exemple, monsieur l'abbé, pas de problème avec moi, j'ai la foi ficelée au corps, je ne la perdrai jamais. Quelqu'un qui s'appelait Saint-Pierre qui a dit quelque chose comme ça pendant la Passion. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Seigneur, même si tous vous trahissent, moi je ne vous trahirai jamais. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dû jeter un pavé dans la mare en lui disant, Pierre, avant que le coq n'ait chanté cette nuit, tu m'auras trahi trois fois, c'est ce qui s'est passé. Rappelez-vous la belle formule de Saint Philippe Néri, qui disait tous les matins, « Ô mon Seigneur, ô mon Dieu, gardez Philippe entre vos mains, parce que sans vous, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire musulman ou juif. » On garde la grâce du bon Dieu, la foi, la catholique, par la grâce de Dieu. Et Dieu, qui sait ce qu'il fait, permet parfois que des tas de gens perdent la foi. Regardez autour de vous. Regardez la France qui était encore un pays catholique à 80% en Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je crois que le chiffre officiel de pratiques religieuses en France pour l'Église catholique, au moins officiellement, c'est même pas 2% maintenant. Enfin, s'il y a 20% de musulmans pratiquants, oui, on peut le travailler. Donc il faut demander, en cette fête de Saint-Joseph, la grâce de la vertu d'humilité. Et cette vertu d'humilité, on la voit avec Saint-Joseph. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand silencieux de l'Évangile. Dans tout l'Évangile, on n'a pas une seule phrase de Saint-Joseph. Rien. Mais il était là. Et Saint-Joseph est le modèle de l'âme d'oraison. Et parce qu'il est modèle d'âme d'oraison, c'est-à-dire d'âme de prière, il est le modèle de celui qui a parfaitement toujours suivi les plans de la divine providence, même quand ce n'était pas évident. Regardez par exemple ce qui est arrivé pour la fête de Noël. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive, enceinte de sa Sainte Mère, il n'est pas encore né, mais il est déjà là. Saint Joseph arrive à Bethléem parce qu'il faut remplir la loi qui demandait un recensement national. Il fallait aller s'inscrire dans la ville de la naissance de sa famille. Et donc Saint Joseph va sur Bethléem, et puis il y a cette phrase terrible dans l'évangile. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le bon Dieu arrive dans sa propre, chez ses propres créatures, on ne peut pas le recevoir. Saint Joseph aurait pu se décourager. Il ne se décourage pas. Ils vont trouver cette grotte pour recevoir l'enfant Jésus. Imaginez le Fils de Dieu qui arrive, le Sauveur du monde, le Créateur du monde qui débarque. Il n'y a même pas une maison pour le recevoir. Il est obligé de naître dans le froid d'une grotte, sur la paille. Encore, ça doit être de la paille sale. Sur une mangeoire d'animaux. Et au bout de quelque temps, les choses s'arrangeaient un petit peu parce que les rois mages étaient passés, avaient donné l'or, l'encens, la myrrhe. L'évangile passe même, parle même d'une maison. Il aurait sans doute dû trouver un abri un peu plus stable. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de nouveau partir. Un ange apparaît qui annonce: attention, le roi Hérode cherche à tuer l'enfant. Vous prenez l'enfant, prenez sa mère, vous allez en Égypte, un pays païen. Un pays où on adorait la lune, les étoiles, les crocodiles, les singes et tous ces faux dieux. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de partir avec Saint Joseph qui dirige tout ça et partir d'un pays de païens. Saint Joseph aurait pu dire: mais moi je ne parle pas l'égyptien, je ne parle pas la langue du pays, qu'est-ce que je vais faire pour trouver un travail, qu'est-ce que je vais faire pour trouver une maison? Il part, il obéit. Au bout d'un certain temps, l'ange revient en disant: maintenant, vous pouvez retourner à Nazareth, parce que Hérode est mort, qui cherche à tuer l'enfant. Et Saint Joseph obéit. Donc Saint Joseph est le patron, le modèle aussi de l'esprit d'obéissance. Pourquoi? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il est modèle d'esprit d'obéissance parce qu'il est modèle d'esprit d'oraison. Pas d'obéissance sans prière. Pas d'obéissance sans oraison. Certains d'entre vous qui sont ici, vous venez de suivre la retraite la semaine dernière. On vous a appris à méditer. Gardez cet esprit d'oraison qui est absolument nécessaire. Celui qui prie se sauve, dit saint Alphonse. Celui qui prie pas se damne. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se sauver sans prière. Pourquoi? Parce que la prière nous met à genoux devant le bon Dieu. Et c'est ce que l'homme moderne doit faire. L'homme moderne doit apprendre à s'agenouiller devant Dieu. Celui qui s'agenouille devant Dieu, devant, devient grand. Celui qui refuse de s'agenouiller devant Dieu reste un esclave. Et c'est pour ça aussi que Saint Joseph est invoqué dans l'Église universelle comme étant le grand argentier. C'est-à-dire celui qui nous aide à nous dépêtrer des histoires matérielles et financières, c'est pour ça qu'il ne manque pas les temps qui courent. Et donc, quand nous avons des difficultés, moi-même je le fais, une grosse facture à payer, on fait une neuvaine à Saint-Joseph pour que Saint-Joseph nous débloque un peu les fonds nécessaires. Et surtout quand on vit qu'avec des dons, c'est pas toujours facile. Et donc, il faut augmenter cette. Si je prie, j'aurai l'esprit d'obéissance. Et si j'ai l'esprit d'obéissance, je vais avoir l'esprit de confiance au bon Dieu. Et je saurai lui faire confiance pour toutes les histoires matérielles. Si bon Dieu s'occupe des fleurs sur les champs et de les vêtir comme il n'a même pas vêtu le roi Salomon. Eh bien, s'occuper de nous quand même. Si le bon Dieu sait exactement le nombre de passereaux qu'il y a dans les airs, dans la région, il va s'occuper de ses propres enfants. Vous voyez, donc ne pas se décourager et comprendre cette importance de ces choses-là. Donc, le Saint Joseph, si vous voulez, est non seulement patron de l'Église universelle, il est protecteur de notre sainte famille. Les protecteurs de la Sainte Famille, Dieu a demandé à Saint Joseph d'être le gardien officiel du Fils de Dieu. Pas rien ça. Et non seulement il lui a demandé d'être le gardien officiel du Fils de Dieu, il lui a demandé aussi d'être le gardien officiel de la virginité de notre Sainte Vierge Marie. Encore un grand mystère. Saint Joseph lui-même était vierge, a voulu garder la virginité. Il a épousé la très sainte Vierge Marie, qui était également vierge. Rappelez-vous, lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer à la très sainte Vierge Marie qu'on lui demandait sa permission pour devenir la mère de Dieu, il a fallu l'acceptation de la très sainte Vierge Marie pour que le mystère de l'incarnation puisse s'accomplir. Regardez ce qu'elle dit à la très sainte Vierge Marie tout de suite. Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? Elle a voulu d'abord vérifier qu'elle pourrait conserver son titre de vierge et son rôle et sa situation de virginité. Et l'ange l'a rassurée en lui disant, l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre et l'être qui naîtra en vous sera du Saint-Esprit. Alors elle a dit oui, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Donc Saint Joseph est celui qui a été choisi par Dieu pour protéger la Sainte Famille, protéger la virginité de notre Sainte Vierge Marie. C'est pour cela qu'on dit que la Sainte Famille est un embryon de ce qu'est l'Église. Donc il faut avoir cette dévotion envers Saint Joseph, justement, pour nous aussi avoir qu'on le prenne pour protecteur d'un autre trésor. Le trésor qui est dans notre âme. Nous avons dans notre âme un trésor extraordinaire. Quel est ce trésor extraordinaire? La foi. Quel est ce trésor extraordinaire que le bon Dieu nous a donné? Le fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu parce que tous les hommes ont une âme, mais tous les hommes ne sont pas créés à la ressemblance de Dieu parce que tous les hommes n'ont pas d'état de grâce en eux. Il y a des millions de personnes aujourd'hui qui ont été baptisées, qui ont eu l'état de grâce comme bébé, qui l'ont perdu, qui n'ont jamais retrouvé, hélas. Donc il faut demander avec humilité à Saint Joseph cette grâce de garder fidèlement ce trésor, de même que lui a gardé finalement ce trésor extraordinaire qui lui avait été confié par la divinité notre Seigneur Jésus-Christ et la virginité de sa mère, de son épouse, pardon. De la même façon, demandons à Saint Joseph les grâces nécessaires pour que nous puissions conserver dans notre âme ce trésor extraordinaire que le bon Dieu nous a donné, à savoir l'état de grâce. Notre Sainte Vierge Marie, à partir du moment où elle a donné son fiat, elle a donné son accord pour devenir la mère de Dieu, eh bien elle est devenue un tabernacle vivant. De même que le prêtre est en charge du tabernacle, les premières fonctions du prêtre, c'est évidemment de surveiller le Saint-Sacrement, de veiller à ce que le Saint-Sacrement soit protégé. De la même façon, Saint Joseph a eu comme mission extraordinaire de surveiller le Saint-Sacrement qui était présent dans le corps de sa sainte épouse. C'est pour ça qu'on dit que la très Sainte Vierge Marie était un tabernacle vivant, un ciboire vivant. Le ciboire, c'est la pièce d'orfèvrerie dans laquelle on garde dans le tabernacle les hosties consacrées. Et comme marque de cette consécration, on place autour du ciboire un linge doré qu'on appelle un pavillon de ciboire. Eh bien, le corps de la Sainte Vierge Marie était le pavillon de ce ciboire vivant qu'elle était devenue en ayant accepté de devenir la mère du Sauveur. Et le rôle de Saint Joseph était de protéger ce don extraordinaire. Demandons-lui de protéger l'état de grâce qui est en nous. Nous aussi, nous devons protéger l'état de grâce qui est en nous. Le bon Dieu nous a fait cette grâce extraordinaire de nous donner la foi catholique, grâce qui ne donne pas à tout le monde. Le bon Dieu nous a fait la grâce extraordinaire d'avoir peut-être un peu plus compris ce qui se passe actuellement dans l'Église. Mais attention, ces grâces sont des dons gratuits. Et il faut avec humilité, beaucoup d'humilité, supplier le bon Dieu de nous garder dans son amitié. Et ça, c'est un don de Dieu. Saint Joseph est aussi invoqué, à cause de ce que je viens de vous dire, comme patron de la pureté. Patron de la pureté. On dit que c'est Saint Joseph surtout qu'il faut prier dans les moments de tentation, les moments de désolation, les moments de grosses tentations physiques, tentations contre la pureté. Il n'est pas possible de vivre dans une poubelle sans sentir mauvais. Donc on ne peut pas vivre dans le monde moderne sans être, qu'on le veuille ou non, contaminé par les miasmes impurs qui sont partout dans le monde moderne, surtout dans les villes. Mais de même qu'une rose est capable de pousser sur un tas de fumier, de la même façon, Dieu peut permettre que nous conservions l'état de grâce, que nous conservions la foi, que nous conservions la charité, même si nous sommes malheureusement obligés de vivre dans un monde complètement contaminé par les idées de liberté, d'égalité, de fraternité, par l'impureté qui va avec. Donc il faut demander avec humilité à Saint Joseph de nous aider à conserver la pureté. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu naître dans son humanité dans n'importe quelle famille. Il a choisi une famille vierge. Notre Sainte Vierge Marie est vierge et mère. Miracle incroyable. Notre Sainte Vierge Marie a été épouse d'un homme qui est resté vierge pour nous apprendre à comprendre l'importance de la vertu de pureté. Et donc, il ne faut pas s'étonner si, évidemment, Je vous le dis souvent, les catholiques sont devenus des gibiers de choix pour le démon, et donc soyez pas étonnés si les catholiques ont évidemment des tas de tentations contre la pureté. Surtout dans le domaine du mariage, un des rôles de l'Église catholique, c'est justement de sauvegarder la sacralité du mariage chrétien. De rappeler à temps et à contre-temps, surtout aujourd'hui, de plus en plus, l'importance du sacrement de mariage. Le bon Dieu n'a pas voulu naître d'une jeune fille isolée. Il a voulu naître d'une jeune fille mariée. Les mauvaises traductions disent que la Sainte Vierge était fiancée à Saint-Joseph. Elle n'était pas fiancée à Saint-Joseph, elle était mariée à Saint-Joseph. Ils ne vivaient pas encore ensemble, mais ils étaient mariés. Donc il faut demander toutes ces grâces. Demander la grâce de la protection de notre mariage pour les gens mariés qui seront un jour mariés, la protection du mariage chrétien. Regardez toutes ces attaques absolument abominables contre le mariage chrétien. Ces attaques par l'avortement, par l'esprit contre, par la mentalité contraceptive et toutes ces choses-là qui détruisent complètement le mariage. Le mariage chrétien aujourd'hui a pratiquement disparu dans la pratique. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait mariage, il faut un certain nombre de conditions. Ce qu'on appelle les conditions du contrat, les conditions naturelles du contrat, à savoir l'unité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants. Donc s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas d'indissolubilité et qu'on n'accepte pas les enfants que le bon Dieu veut qu'on ait, il n'y a pas de mariage. Le mariage est invalide. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Encore une fois, ils attaquent les fondements mêmes de l'Église. Ils attaquent les fondements mêmes de l'Église. Ils attaquent les fondements mêmes de l'Église, justement, en détruisant toutes les protections des âmes. Une âme, le bon Dieu n'a pas voulu que les âmes de nos enfants se poussent toutes seules comme ça dans la nature. Il a voulu la protection d'une famille catholique, de même qu'il a voulu la protection de la Sainte Famille, de Saint Joseph, de notre Sainte Vierge Marie, pour faire naître l'enfant Jésus. Quand on pense que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui ne peut pas survivre en tant que humanité sans le lait de la Sainte Vierge Marie, sans les soins diligents de Notre-Dame. Si notre Sainte Vierge Marie ne s'était pas occupée comme s'était occupée de l'enfant Jésus, l'enfant Jésus dans son humanité serait mort. Il ne peut pas mourir en tant que Dieu, évidemment, parce qu'il est éternel. On pourrait continuer, mes bien chers frères, cette longue liste de vertus de Saint Joseph. Imaginez un peu Dieu fait homme qui appelle Saint Joseph papa. Quand on y pense, c'est ahurissant. Dieu qui a créé Saint Joseph, Dieu qui maintient Saint Joseph dans l'existence. Dieu fait homme qui appelle Saint Joseph papa. C'est tellement énorme, ça nous semble presque un peu exagéré de dire des choses comme ça. C'est pourtant vrai. Vous voyez? Donc il faut, encore une fois, demander au bon Dieu de nous aider à comprendre toutes ces choses. Et le dernier titre de Saint Joseph, je ne vais pas oublier celui-là non plus, il est aussi le patron de la bonne mort. Pourquoi? Saint Joseph est mort avant le début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort entouré de son Fils putatif, notre Seigneur qui est Dieu, et sa mère, et sa femme, son épouse, notre Sainte Vierge Marie. Saint Joseph est mort entouré de Jésus et Marie. Quelle grâce! Imaginez que vous mouriez avec notre Seigneur Jésus-Christ à votre droite, notre Sainte Vierge Marie à votre gauche. C'est sûr que le démon ne met pas le pied dans la pièce, hein? C'est ça. Donc Saint Joseph est patron de la bonne mort. Donc il faut l'invoquer dans les moments difficiles, l'invoquer dans les moments de mort spirituelle. Si je perds la grâce du bon Dieu, tout de suite prier Saint Joseph pour retrouver, ressusciter d'entre les morts, retrouver la vie spirituelle. L'invoquer aussi dans les moments de maladie, les moments de décès dans les familles, pour justement lui demander des grâces dont nous avons besoin afin que nous puissions justement conserver la foi et mourir en état de grâce. Voilà toutes ces grâces que nous allons demander par l'intermédiaire de Saint Joseph. Et n'oublions pas évidemment que Saint Joseph, il nous donne ses grâces, mais comme Marie, son épouse, est médiatrice de toutes les grâces, il faut aussi passer par elle. Le bon Dieu a permis que que ces grâces qu'il a préparées pour nous nous soient données par l'intermédiaire d'autres personnes. Encore un grand mystère. Protestants, il faut comprendre ça. Ah, pourquoi le bon Dieu, pourquoi on ne prie pas directement le bon Dieu? Pourquoi on est obligé de passer par la Sainte Vierge Marie? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au pied de la croix, il y avait la Sainte Vierge. Et notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant de Marie, il a dit à la Sainte Vierge Marie, « Femme, voici votre fils. » Le fils, c'était Saint Jean, qui est au pied de la croix, qui représente l'Église. Donc la Sainte Vierge Marie est mère de l'Église, elle est co-rédemptrice du genre humain, elle est médiatrice de toute grâce. Évidemment, ces choses-là sont, hélas, complètement niées dans l'Église moderne. Mais il faut s'accrocher à toutes ces définitions essentielles et prier la Sainte Vierge Marie pour lui demander la grâce de ne jamais, jamais perdre l'état de grâce, jamais perdre la foi, l'espérance et la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.